La parole de Dieu me dit que je dois marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire que ma vie, elle doit changer. Et pour changer, il faut se faire violence. Si on ne se fait pas violence dans nos vies, eh bien, il n'y a aucun changement. Je voudrais... on va prendre un premier passage. C'est dans le livre d'Esdras. Il nous est dit que le peuple est en déportation à Babylone. Et puis, il y a un reste qui est encore resté à Jérusalem. Et le temple a été reconstruit. Et le roi Artaxerxès va dire à Esdras, « Eh bien, retourne dans ton pays, offre des sacrifices. » Et miraculeusement, il propose à Esdras de lui donner tout ce qui est nécessaire pour offrir des sacrifices. Et Esdras, il part pour offrir les sacrifices. Il arrive à Jérusalem et il constate le désastre. Il constate que la population qui est encore là, elle ne marche plus en conformité avec la volonté de Dieu. Il constate qu'il y a eu des mésalliances, ils se sont mariés avec des gens qui étaient des peuples juste à côté, qui étaient des peuples idolâtres, ils ont fait des mésalliances. Et quand Esdras voit ça, il se repent devant Dieu, il s'humilie, il nous est dit qu'il déchire son vêtement, il dit « Seigneur, pardonne-nous, nous avons péché contre toi ». Et puis il y a les anciens du peuple qui viennent autour de lui et qui lui disent « Oui, nous reconnaissons que nous avons péché ». Et Esdras va dire « Mais Seigneur, on veut de nouveau s'attacher à toi, on veut de nouveau un nouveau départ dans notre vie, on veut, Seigneur, revenir à toi ». Et tous les anciens lui disent « Oui, on veut revenir à toi ». Alors les anciens vont lui dire cette parole-là « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Prends courage et agis ». Mes frères et sœurs, quand on veut du changement dans nos vies, il est indispensable de prendre courage et d'agir. Ça ne va pas venir tout seul. Et là, le changement, il va être terrible. On le lit très facilement quand on lit la parole de Dieu. C'est deux phrases. Hein. Il nous est dit qu'ils vont se séparer des femmes qui venaient des peuples idolâtres, etc. Mais c'est des drames dans les familles. Mais Esdras va se lever et agir. Parce qu'il veut revenir à Dieu de tout son cœur. C'est de ça dont je veux vous parler. Dans nos vies, il nous faut prendre courage et agir. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses pour nous. On l'a célébré tout à l'heure, il a donné sa vie, il a accepté de venir sur la terre des hommes, de donner sa vie pour que vous, pour que moi, pour que chacun de nous, nous soyons sauvés. Alléluia ! Mais ensuite, la parole de Dieu nous dit, c'est pas tout, hein. Nous avons à marcher en nouveauté de vie. Et il va falloir que nous agissions, et il va falloir que nous fassions comme ces hommes ont dit à Esdras, « Prends courage, agis !» Alors, on va lire, si vous voulez bien, un passage dans l'évangile de Luc. Il nous a dit ceci, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes fidèles dans les moindres choses ? C'est important. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir de maître. Le Seigneur dit... attire notre attention sur l'importance de la fidélité dans les moindres choses. Et puis il va dire que, il va nous parler des richesses injustes. Qu'est-ce que c'est les richesses injustes ? Ben, les richesses injustes, c'est les richesses sonnantes et trébuchantes que chacun de nous peut avoir. Vous voyez, elles sont injustes. Pourquoi elles sont injustes ? Oh, parce que sur cette terre, il y a des hommes, des femmes, qui ont des richesses énormes, et que cette richesse leur donne d'ailleurs une aura auprès des, auprès de la population, auprès, ils ont un niveau de vie, ils l'étalent. Mais ce sont des richesses injustes parce que ces mêmes personnages, dans le ciel, il n'en est pas ainsi. Ce qui est au niveau de la terre des hommes n'est pas le reflet de ce qui est dans le ciel. Et j'ai l'habitude de dire, vous savez, frères et sœurs, hélas, en enfer, on trouvera des gens qui étaient très riches et qui avaient une grande aura. Mais il leur manquait une chose essentielle. Leur nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire que tous les riches iront en enfer, ce n'est pas vrai. Rappelez-vous qu'il y a un disciple riche qui avait un tombeau et qu'il a donné pour que Jésus soit mis au tombeau. Et ce disciple-là, c'est le disciple par lequel tous les hommes ont regardé ce tombeau qui maintenant est vide. Alléluia! Donc il y aura des riches aussi. Mais voilà pourquoi ces richesses peuvent être injustes, parce qu'elles ne correspondent pas à une réalité. Et le Seigneur s'adresse à chacun de nous, il dit « Est-ce que vous avez été fidèles dans les richesses injustes ?» Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, ce n'est pas mon Église. Alors j'en profite, si tu permets, Stéphane. Hein. Les richesses injustes, est-ce que vous donnez votre offrande? Est-ce que vous donnez à Dieu comme la petite veuve qui a donné 2 pièces et le Seigneur va dire « C'est tout ce qu'elle avait. Elle voulait honorer Dieu. » Elle a honoré Dieu. Mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas fidèles avec les richesses injustes, le Seigneur dit « Qui ?» Tu peux cliquer ? Merci, il faut que tu suives, il faut que tu cliques. Il ne faut pas que tu... Tu cliques. Voilà. Qui vous confiera les véritables ? C'est-à-dire les richesses du royaume des cieux, les richesses du royaume de Dieu. Qui vous confiera les véritables? Et dites-moi, qui est-ce qui peut confier les richesses du royaume de Dieu? Qui peut donner les richesses du royaume de Dieu? Est-ce que c'est votre pasteur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que... Et il n'y a que Dieu. On est d'accord. Donc quand il dit... Mais si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? C'est une autre façon de nous dire, si vous n'êtes pas fidèle dans les choses, les richesses injustes, ben moi, je ne vous confierai pas des richesses qui viennent du royaume de Dieu. Ah! Ah, ça a une importance, ma fidélité dans les choses avec les richesses injustes, avec ce que Dieu me donne. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui c'est qui vous, peut vous donner la paix, la joie, le bonheur dans la ville, l'assurance qui fait de vous des hommes, des femmes, que rien ne trouble? Qui c'est qui peut vous donner ça? Mais c'est le Seigneur. Mais si vous n'avez pas été fidèle avec ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Frère, ma sœur, si tu méprises ce qui est à autrui, si tu n'en fais aucun cas, si tu dis « Oh, c'est pas à moi, c'est pas grave, hein. Dans l'Église, il y a des trucs, mais c'est pas à moi, de toute façon, c'est l'Église, c'est ta personne, c'est, voilà, j'en prends pas soin. » Tu tombes sous cette phrase du Seigneur Jésus, « Vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui. » Qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu cliques, s'il te plaît. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu des richesses injustes. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et se moquaient de lui. Les pharisiens étaient avares. Si vous regardez dans le dictionnaire ce que ça veut dire être avare, ça veut dire amasser des sous, mais aimer tellement d'avoir amassé des sous qu'à la limite, vous allez vous priver plutôt que de les utiliser. Vous vivez presque dans la misère, mais vous amassez des sous. Et puis, vous regardez votre compte en banque et vous dites « Ah, il est plus grand qu'hier, c'est bien, j'ai gagné des sous. » Et mes frères et sœurs, vous n'allez pas les emporter avec vous. Hein. Pharisiens, ils étaient avares. Ils écoutaient tout cela, ils se moquaient de lui. Ils devaient se moquer de lui parce qu'ils devaient se dire ben, « Nous, on sert Dieu. » Quand même, les pharisiens, ils servaient Dieu. Hein. Mais en même temps, on aime bien Mammon. On aime bien les sous. Et Jésus leur dit « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Parce que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ça ne veut pas dire que toute élévation est une abomination devant Dieu. Mais ça veut dire que les pharisiens, ils cherchaient à s'élever devant les hommes. Vous savez, ils faisaient des prières au coin des rues, nous est dit. Ils prenaient les premières places dans les rassemblements. Ils faisaient tout pour qu'on les voit, pour qu'ils aient une importance auprès du peuple. Et le Seigneur va leur dire, mais Dieu connaît vos cœurs. Mes frères et sœurs, je voudrais peut-être rappeler à quelqu'un ce matin, hein. On peut cacher à sa famille des choses, on peut cacher à son conjoint des choses, on peut cacher à l'Église des choses, on peut cacher au pasteur des choses, mais on ne peut pas cacher au Seigneur. Lui, il voit nos cœurs. Et donc, il va leur dire ce qui est élevé, la façon que vous avez de vous élever parmi les hommes, mais c'est une abomination devant Dieu. Et on va poursuivre, tu cliques encore un coup. Seigneur, on va continuer en disant « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean ». On va voir qu'il s'agit de Jean-Baptiste. « Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer ». Ah, nous y voilà. Chacun use de violence pour y entrer. Donc, le Seigneur est en train de dire, il y a la loi et les prophètes, et puis il y a, depuis Jean-Baptiste, une nouvelle ère qui s'est ouverte, qui est l'annonce du royaume de Dieu. J'ai mis 2025, ça continue après, parce que la parole de Dieu me dit que jusqu'à la fin, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée. Donc il y a une nouvelle ère, nous sommes dans cette nouvelle ère. Et dans cette nouvelle ère, le Seigneur dit, chacun use de violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Ah, mais moi je croyais que c'était automatique, je me suis fait baptiser, le Seigneur a tout payé pour moi, il a pris mes péchés à la croix, son sang m'a purifié, j'ai été baptisé, et maintenant, eh bien, tout va bien. C'est pas ce que dit Jésus. Ce n'est pas ce que dit Jésus. Et Jésus, il met même le projecteur sur la nécessité d'une violence. La violence, ce n'est pas une violence à l'égard de ton voisin, ce n'est pas une violence à l'égard de ton collègue au travail, ce n'est pas une violence dans ta famille, ce n'est pas une violence physique, verbale. Non, c'est une violence envers soi-même. Regardez ce que dit, j'ai pris un autre verset pour bien que vous voyez que ce n'est pas un verset qui dit ça, mais c'est l'Évangile qui dit ça. Dans Matthieu, il nous est dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, même remarque, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » S'emparer, si vous regardez dans le dictionnaire, ça veut dire prendre quelque chose avec violence. Ah ben, c'est cohérent. C'est cohérent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, le Seigneur dit, il y a une nouvelle ère. Cette nouvelle ère, elle commence avec Jean-Baptiste et avec la repentance. Vous savez, mes frères et sœurs et amis, peut-être au milieu de nous, la repentance, c'est une première violence qu'on doit exercer à l'égard de soi-même. Ça veut dire qu'on doit piétiner son orgueil. On doit se mettre, s'humilier devant Dieu. On doit venir devant Dieu et lui dire, « Mon Dieu, pardonne-moi, je suis pécheur et j'ai besoin de ton pardon. » Et il y a une première violence, là, qui est nécessaire. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que le baptême, c'est aussi la suite de cette violence-là. Mais moi, j'ai connu des gens qui me disent « Mais monsieur, je crois en Dieu, pourquoi comme ça, en public, je me plongerai dans un baptistère ?» Eh bien, parce que tu vas t'humilier. Parce que tu vas dire au Seigneur « Seigneur, pardonne-moi, Tu m'as pardonné. Et maintenant, Seigneur, je veux m'engager à ta suite. Je veux sortir de ce baptistère pour vivre une vie nouvelle, un changement. Ah oui, mais ce changement, sans violence, va falloir que j'exerce une violence. Et puis Jésus vient ensuite et il nous ouvre l'entrée dans le royaume des cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je voudrais juste faire une allusion et je vous donnerai un mot de témoignage personnel. L'entrée dans le royaume des cieux. Mais l'entrée dans le royaume des cieux, si tu peux avancer, voilà, merci. L'entrée dans le royaume des cieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire simplement que Dieu a autorité sur les galères de ta vie. Il y en a qui ont eu des galères dans leur vie, il y en a qui ont traversé des galères dans leur vie. Dieu a autorité sur les galères de ta vie. Waouh! Dieu a autorité sur les galères de ma vie. Oui, comme pour Israël. Pour Israël, le Seigneur va dire, « J'ai vu ta souffrance en Égypte. Je suis descendu pour te délivrer, pour te faire monter dans ce pays, dans ce bon et vaste pays. » Une libération, une guérison, parce qu'il a vu la souffrance. Celui qui entre dans le royaume de Dieu, ben, c'est Dieu qui règne, et Dieu a autorité, et Dieu peut le sortir de là où il est. Alléluia, Seigneur, mais quel bonheur d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu a autorité sur les aléas de ta vie. Nos vies, il y a des aléas, on n'a pas prévu. Un aléa, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on l'ait prévu. Vous êtes malade, vous avez rien fait pour être malade. Enfin, peut-être vous n'êtes pas lavé les mains, mis le gel comme il fallait, mais enfin, voilà. Hein? Ben, on n'a pas voulu être malade, c'est un aléa. On a le travail, ça ne va pas, la société ferme, c'est un aléa. C'est, voilà. Dans, il y a différents aléas. Il peut y avoir toutes sortes d'aléas dans nos vies qu'on n'a pas prévues. Mais Dieu a autorité sur ces aléas-là. Il a autorité. Alors peut-être on va être pendant un temps bousculé, ballotté de droite à gauche. Ça va bouger. Vous savez, comme quand on est en avion, qu'il y a des trous d'air, là, oh, ça bouge. Hein. Mais on va passer au travers. Parce que Dieu a autorité. Parce que Dieu nous conduit, parce que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, et parce que c'est Dieu qui règne. Amen. Vous voyez, un jour, Paul, je fais allusion, là, je crois que c'est acte 27, Paul, un jour, on le fait prisonnier, parce qu'on le dit, on va te traîner jusqu'à Rome, on va te juger à Rome. Alors, il embarque sous une garde dans un bateau, le bateau part. Je fais très vite, hein. Le bateau arrive, il y a une tempête, dans la tempête tout va mal, les marins du bateau jettent tout par-dessus bord, mais le bateau il va de plus en plus mal, et finalement le bateau s'échoue à moitié, il est cassé sur un banc de sable, il est cassé par la tempête, et tout le monde, le commandant du bateau va dire ben, « jetez-vous à la mer et puis essayez de survivre ». Et il y a un centenier qui est là qui dit « oui mais les prisonniers dans lesquels il y a Paul ». Les prisonniers, on va les tuer, alors. Et puis, il y a un autre centenier qui rajoute deux, trois mots, et finalement, la décision, c'est que les prisonniers aussi vont se jeter à l'eau. Alors, Paul, comme les autres, il se jette à l'eau. Le texte nous dit qu'on est en hiver, que l'eau est froide, et il se jette à l'eau, dans de l'eau froide, il s'agrippe à des morceaux de bois du bateau, et il nage tant bien que mal pendant des heures dans de l'eau froide. Et ils arrivent au bord du rivage. Et là, sur le rivage, il y a des gens du coin qui ont vu ce désastre-là de loin. Ils ont fait un feu en disant « Ceux qui arriveront jusque-là, ils pourront au moins se réchauffer. » En plus, le texte nous dit qu'il pleut. Et il fait froid, il pleut, et ils sont restés pendant des heures dans de l'eau glacée. Alors ils arrivent, il y a un feu, ils se réchauffent. Et Paul, il va prendre des branchages pour alimenter le feu. Il tend la main, un serpent s'attache à sa main. Il va au-dessus du feu, hop, le serpent tombe dans le feu. Tout le monde se dit, il va mourir. Il va mourir. Tous l'observent et puis il ne meurt pas. Alors au bout d'un moment, il va dire, mais c'est un Dieu, c'est un Dieu. Et Paul va dire, non, non, le Dieu, il est dans les cieux. Il y a un Dieu, il est dans les cieux. Et pourquoi Paul, il a traversé tout ça? Pourquoi Paul, on pourrait presque dire, il a été, excusez-moi du terme, inoxydable. Rien n'a eu de prise. Ah, il y a eu des aléas, hein, mais il est passé à travers. Mais pour une raison simple, c'est que le Seigneur avait dit à Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Mon plan, Dieu avait dit à Paul, mon plan, c'est que tu comparaisses devant César. Et mes frères et sœurs, quand on est dans le royaume de Dieu, quand c'est Dieu qui règne, ce n'est pas la tempête qui fait dérailler le plan de Dieu, ce n'est pas le centenier qui veut qu'on tue les prisonniers qui fait dérailler le plan de Dieu, ce n'est pas la mer froide pendant des heures qui fait dérailler le plan de Dieu, ce n'est pas le serpent attaché à la main de Paul qui fait dérailler le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu, il s'accomplit.
Amen.
Rentrer dans le royaume de Dieu. Waouh ! Frères et sœurs, je ne suis pas Paul, mais je vous dis ça pour que vous compreniez que ce n'est pas simplement dans l'Écriture. C'est une réalité que chacun de nous, nous sommes amenés à vivre. Certains le savent, peut-être d'autres pas. Il y a 4 ans de ça, on m'a trouvé un cancer. J'ai été pendant 6 ans président de l'Action missionnaire, j'étais partout dans le monde, je ne faisais pas attention à rien, je servais le Seigneur et... Quand je suis rentré au bout de 6 ans, on m'a dit « Vous avez un cancer ». Bon, déjà, on prend un coup de massue hein, quand on vous dit que vous avez un cancer. Puis on passe les premiers examens, on me dit « Ah, vous avez des métastases partout dans les os, dans les côtes, dans la colonne vertébrale, dans les hanches, dans la clavicule, partout ». Les docteurs me disent, je leur dis « Vous me donnez combien d'espérance de vie ?»« Pas beaucoup ». Ça, c'est il y a plus de 4 ans, mais je suis en pleine forme devant vous. Par la grâce de Dieu, je n'ai quasiment plus de métastases, elles ont disparu. Un an après qu'on ait trouvé le cancer, mon cœur s'arrête. Je suis dans une ambulance qui me transporte à l'hôpital parce que j'avais fait un gros malaise. Dans l'ambulance, mon cœur s'arrête. Puis au bout d'une minute 20, il redémarre, mais mal, sans le ventricule gauche. Et au lieu de battre, comme votre cœur en général, à 60-70, il bat à 25. Je reste pendant 2 jours entre la vie et la mort. Là, je me souviens de cette nuit du dimanche, on m'avait dit on va essayer de vous opérer lundi matin à la première heure, dans la nuit du dimanche, mon cœur perdait des battements. Toutes les heures, il perdait 2 battements. Il m'avait remonté un peu avec les médicaments. J'étais aux alentours de 28, par là. 1 heure après, j'étais à 26. 1 heure après, j'étais à 24. Le docteur m'avait dit, en dessous de 20, monsieur, la vie est impossible. Alors, je lui ai dit, Seigneur, d'ici à demain matin, il reste 8 heures. Si toutes les heures, je perds 2 battements, eh ben, demain, il n'y en a plus. Je me suis endormi en disant, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Soit tu me reprends, mais Seigneur, si tu me reprends, tu prendras soin de moi, tu es parti me préparer une place. Soit tu me relèves, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, tu prends soin de moi. Je me suis endormi. Le lendemain, on m'a réveillé, le cœur battait encore un tout petit peu. Je ne sais pas combien j'étais, peut-être à 20, 21, je ne sais pas. Alors j'ai vu les électrocardiogrammes, c'était plat, puis il y avait une petite bosse, plat, petite bosse. Il m'a dit, on va vous mettre un pacemaker. Alors ça se met par l'épaule, ils utilisent les veines, ils fixent des sondes dans le cœur qu'ils vissent, et puis ils branchent le pacemaker. Et là, le ventricule gauche se remet à marcher, toc, 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 le cœur repart impeccable. Et le chirurgien me dit, monsieur Zolesio, ce qui vous est arrivé, c'est irréversible. Le cœur ne se remet jamais, il ne retrouve jamais le fonctionnement d'avant. Donc, on met un pacemaker, le pacemaker, il supplée au manquement du cœur, et maintenant, vous serez toujours dépendant du pacemaker. Si le pacemaker s'arrête, vous mourrez. Entre le mois qui a suivi, moi, ça me posait un vrai problème psychologique. je dialoguais avec le Seigneur, et je disais, Seigneur, mais moi j'enseigne que le prince de la vie, c'est toi. Ce n'est pas une petite boîte que j'ai dans ma poitrine. Le prince de la vie, c'est toi. Et un mois après, je passe un examen de contrôle. Et le chirurgien, il regarde, il me dit, Monsieur Zolesio, je ne comprends rien. Votre cœur, il a entièrement redémarré. Alors j'arrête le pacemaker. Alors j'ai toujours le pacemaker, mais il est arrêté. Parce qu'on ne va pas retirer les sondes qui sont vissées dans le cœur, etc. Mais il est arrêté. Ce qui était déclaré comme impossible. C'est impossible. Eh bien, le Seigneur m'a permis de traverser ça. Mes frères et sœurs, quand on est dans le royaume de Dieu, quand on est dans le plan de Dieu, mais rien n'arrête le plan de Dieu. On peut être secoué. Oui, ça secoue pas mal quand on vous dit que vous avez un cancer, que vous faites de la chimio, j'ai fait 6 cures de chimio et tout. C'est vrai que ça secoue pas mal. Mais le Seigneur, son plan, rien ne l'arrête. Parce qu'on est dans le royaume de Dieu, parce que c'est Dieu qui règne. Ah, mais Seigneur, le royaume de Dieu, mais je veux y entrer, je veux y courir. Le royaume de Dieu, c'est découvrir la compassion et la puissance de Dieu pour ta vie. Des fois, on aimerait que ça aille plus vite. Parce qu'on est, toujours impatient. Le Seigneur a son temps. Et puis, on a vu tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur le fait que Dieu dit, le Seigneur dit, s'emparer du royaume des cieux. S'emparer, quand je m'empare de quelque chose, ça veut dire que ça devient à moi. S'emparer du royaume de Dieu. Tout dans le royaume de Dieu devient à moi. Oh. Tout. Ben, regardez ce que dit le Seigneur. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Le Seigneur n'a pas dit certaines choses, il dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Mes frères et sœurs, entrer et marcher dans le royaume de Dieu, mais c'est l'enjeu, c'est ta vie présente et la vie éternelle. Je dis ta vie présente parce que quand vous traversez des aléas comme ceux que je viens de vous raconter et que vous en ressortez, mais vous en ressortez beaucoup plus vaillant que vous n'y êtes entré. Votre foi, elle devient en béton. Votre louange pour le Seigneur. Tous les matins, je me réveille, je fais un tour dans mon jardin, je fais le tour du jardin, je dis, Seigneur, quelle grâce ! Tu m'as gardé. Alléluia, quelle grâce ! L'enjeu, c'est la vie présente et bien sûr la vie éternelle. Seigneur, combien est de promesses dans la parole de Dieu ? Combien est de promesses ? Je ne sais pas, c'est difficile de compter toutes les promesses. Mais combien de promesses que toi, tu as expérimentées ? Parce que les promesses dans la parole de Dieu, elles ne sont pas pour mon voisin. Oui, elles sont aussi pour mon voisin, mais elles sont pour toi, pour moi. Je veux m'emparer du royaume de Dieu. Mais il faut se faire violence. Alors, on va voir un peu ça. Le royaume de Dieu nécessite notre travail. Regardez ce que dit le Seigneur, Jean 6, 27. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste en vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Travaillez non pour la nourriture qui périt. En général, tous les jours, on va au travail, on se lève, on va au travail, et on va au travail pour gagner ce qui est nécessaire pour notre nourriture. C'est pas vous, mais moi, j'ai eu travaillé dans l'industrie. Il y a des jours, même si je faisais un travail intéressant, il y a des jours, il fallait un peu me motiver pour partir au travail. C'est pas toujours agréable, aller au travail. Des fois, il faut un peu se faire violence. On va au travail, on sait qu'au travail, il y a des problèmes qui vous attendent, il y a des réunions difficiles. Il faut se faire un peu violence pour aller au travail, des fois. Mais on le fait. Et là, le Seigneur nous dit, travaillez, mais pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste en vie éternelle. Votre pasteur vous a parlé tout à l'heure de lire la Bible en un an. Est-ce que vous le faites ? C'est pas... Vous voyez, le Seigneur, il n'est pas en train de dire « Pense à des choses, parle-en !» Mais ne les fais pas. C'est pas ça qu'il dit. Il dit « Travaillez. Travaillez. Seigneur, moi, je veux m'emparer du royaume de Dieu. Moi, je veux que les promesses du royaume de Dieu, je les vois s'accomplir dans ma vie. Alors, je vais travailler. Travailler. » Pour le royaume de Dieu. Ça va me demander un peu de violence. Ça va me demander un peu de violence de faire des choix personnels sans compromis. Des choix. Je décide, Seigneur, de mettre ce temps à part pour toi. Des choix dans ce que je fais, là où je vais, ce que je regarde. Regardez ce que le Seigneur va dire. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ta main est pour toi une occasion de chute. La main, c'est quoi ? Ça désigne quoi ? Ça désigne tes actions, ce que tu fais. Hein, par exemple, tu déclares tes impôts avec ta main, hein, sur l'ordinateur. Et puis, il peut arriver que ta main, elle triche un peu. Récemment, j'avais un peu égratigné l'arrière, je vais chez un carrossier, je lui demande de me refaire un peu, il me dit, voilà, monsieur, je pourrais faire ça, puis si vous voulez... « Je ne vous fais pas de facture, mais vous payez moins. » Et je dis, « Non, monsieur, vous allez me faire une facture. Bah, » Regardez avec des yeux comme ça. Il y en a un qui, je lui donne l'occasion de payer moins sans facture, mais il veut une facture et il veut payer plus. Et oui, parce que c'est la loi. Et quand tu fais du travail au noir, quand tu... Eh bien, ta main est en train de tricher. Si ton pied, pour toi, est une occasion de chute, le pied, il me parle de là où je vais. Là où je vais. Ah ben, est-ce que vous croyez que le Seigneur, il serait allé dans des endroits glauques ? Les jeunes, là, est-ce que vous croyez que le Seigneur, il serait allé dans une boîte de nuit ? Est-ce que vous croyez que le Seigneur, il serait allé dans des endroits où on fête, je dis ça au hasard, hein ? En fait, les sorcières, les sorciers, les esprits impurs. Est-ce que vous croyez que le Seigneur y serait ? Alors, bien sûr, ta main et ton pied, ils ne font pas ça tout seuls. Hein. Ils le font parce que, quelque part, toi, tu es derrière ta main et ton pied. Et que, quelque part, tu es d'accord. Donc, ça veut dire que, quelque part, ben, tu es d'accord de te comporter comme ça. Et le Seigneur dit, attention, attention, use de violence. Use de violence. Coupe-les, jette-les loin de toi. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais pasteur en région parisienne. Un jour, il y a un jeune qui vient me voir. Il me dit, pasteur, il me tend son portable. Il me dit, pasteur, je regarde des sites que je ne devrais pas regarder. Est-ce que tu veux bien mettre un code que tu me donnes, que tu ne me dis pas ? Comme ça, je ne pourrai plus les regarder. Parce qu'avant avant d'arracher ton œil, il y a peut-être des intermédiaires. Parce que le Seigneur, il dit aussi ça. Arrache, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le. Parce qu'il vaut mieux entrer borgne que d'être jeté dans la gêne. Alors, avant d'arracher ton œil, commence par couper ton Internet, si c'est ça ton problème. Alors, ce jeune, il m'a tendu son téléphone, j'ai mis un code... instantanément, j'ai oublié le code, donc il... J'étais sûr qu'il ne le voyait plus. Quelle joie, des années après, de trouver ce jeune dans l'Église, ayant fondé une famille, marchant dans les voies de Dieu. Ah, Seigneur, tu es bon. Il s'est fait violence pour marcher avec toi, et tu l'as béni. Alléluia. Quelle violence ! ses choix personnels. Il y a des fois des choix personnels, il va falloir se faire violence, mes frères et sœurs. Il va falloir du courage face à l'intimidation du monde. Je crois que c'est quelque chose qui va aller grandissant. Vous savez, il y a ce verset qu'on connaît bien de David qui dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Lui, David, il est encore jeune, mais il a une détermination dans le cœur. « Moi, je marche avec l'Éternel. » Et tous les autres, là, toute l'armée, elle est là tous les matins. Il nous est dit que le Goliath, il vient tous les matins et il se moque des autres. Et tous les autres, ils sont là et ils tremblent devant lui. Mes frères et sœurs, je crois que nous allons aller dans des temps où le monde va de plus en plus s'opposer aux chrétiens. À la télé, par différentes façons, on va avoir de plus en plus des oppositions, des moqueries. On va nous traîner dans la boue. On va dire, mais vous pensez-vous, ce sont des gens qui croient encore ça? Moi, partout où je vais, je prends l'occasion, au bout de 2 minutes, de leur donner mon témoignage, de leur dire, moi, j'étais mort, mais le Seigneur m'a ressuscité. Ah ben, vous y croyez pas, ben, c'est dommage, parce que le Seigneur aurait pu faire pareil chez vous. Il va falloir qu'on affronte une opposition. Mes frères et sœurs, le jour où l'Église n'est plus dans cet affrontement-là, ça veut dire que l'Église est morte. Ça veut dire que l'Église, elle n'a plus que le nom, elle n'a plus que l'immeuble, mais elle a perdu ce qui en fait la force. Il faut affronter, il va falloir affronter avec détermination celui qui est contre nous. Il va falloir du courage face aux tribulations de la vie. Les tribulations, c'est le Seigneur qui dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage, mon frère, ma sœur. Ouais, t'es ballotté, un peu ballotté, ok. T'es beaucoup ballotté, ok. Moi, j'ai des frères et sœurs qui viennent, et c'est normal, ils viennent dire à leur pasteur, sans doute, Stéphane, tu fais la même expérience, et ils nous disent, voilà, frère, je suis dans une phase de ma vie, priez pour moi, je suis ballotté de tous côtés. Bien sûr, on prie pour eux. Bien sûr, on est avec eux. Mais le Seigneur nous sort de là. Parce qu'il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous êtes dans le royaume de Dieu, et c'est le règne de Dieu qui aura le dernier mot. Alors, mes frères et sœurs, ce que nous avons à faire, c'est nous engager délibérément du côté de Dieu. Délibérément lui dire, Seigneur, je veux m'engager, je veux marcher en nouveauté de vie, je veux m'emparer du royaume de Dieu, je veux rechercher le royaume de Dieu et sa justice, premièrement, et tout le reste me sera donné ensuite. Il va falloir de la persévérance dans la prière. Notre pasteur disait, quand on fait une chaîne de prière, il faut un peu se faire violence. Et oui, il va falloir se faire violence, de la persévérance dans la prière. Vous connaissez ce passage où Jacob va se battre avec un ange. C'est mal parti, hein, quand on se bat avec un ange, on est sûr de perdre. Hein. Forcément. Hein. Mais lui, il s'accroche, il dit, l'ange lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob, il répond, « Non, je te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Et il sait bien que c'est un ange, et il sait bien qu'il sera plus fort que lui. Il sait bien qu'il va finir par perdre. Et d'ailleurs, il va perdre, et l'ange va lui déboîter une hanche. Mais lui, il s'est accroché, il a dit, « Non, je te laisserai pas, que tu m'aies béni. » Ou encore, cette veuve devant le juge inique dont le Seigneur nous parle dans l'évangile de Luc. Cette veuve, un juge, c'est le comble, hein, un juge qui n'applique pas la justice, qui ne fait pas justice. Alors il nous est dit que cette veuve, j'image avec des schémas d'aujourd'hui. Le bureau du juge, il ouvre à 9h. Elle, à 9h moins 5, elle est là. Elle attend. Le juge, il arrive, elle est, vous vous rappelez oui, plus tard. Le lendemain, 9h, le juge arrive, elle est là, elle attend. Vous vous rappelez? Au bout d'un certain temps, le juge, même qu'il est un juge inique, finit par dire, bon, je vais lui donner ce qu'elle veut, parce que j'en ai marre de la voir là, quoi. Hein? Et Dieu dit, et combien à plus forte raison, Dieu ne vous ferait-il pas justice ? Il va falloir de la persévérance dans la prière. Paul, son écharde, on pense que c'était un problème qu'il avait aux yeux. Il dit, il va dire au Seigneur, voilà, Seigneur, délivre-moi de ça. Il va prier trois fois. Il nous a dit qu'il prie trois fois. Et au bout de trois fois qu'il prie, le Seigneur lui répond. Et il lui répond, non ! Ça vous aurait plu, vous ? Non ! Seigneur, délivre-moi de ça ! Non, Paul, je ne te délivrerai pas de ça. Parce que Paul, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. J'ai ma grâce qui va être sur toi. Et c'est encore bien meilleur. Et ma grâce, tu vas voir, elle va te suffire. Et la grâce de Dieu accompagne Paul tout au long de sa vie. Mes frères et sœurs, des fois, nous nous accrochons à quelque chose. Nous nous accrochons. Vous savez, les enfants, c'est comme ça. Ils s'accrochent, ils ont un hocher. Ils s'accrochent au hocher. Vous leur donnez un lingot d'or, ils jettent le lingot d'or, ils s'accrochent au hocher. Et vous avez envie de leur dire, mais tu sais, avec le lingot d'or, tu peux t'en acheter beaucoup, des hochers. Mais eux, ils s'accrochent au hocher. Des fois, on fait un peu ça, nous, avec le Seigneur. On s'accroche à quelque chose. Au lieu de lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Tu es le roi. C'est toi qui règnes. Je suis dans ton royaume. Seigneur, fais ce que bon te semble. Et donc, Paul, il va insister jusqu'à une réponse. Une fois qu'il a sa réponse, eh ben, il passe à autre chose. Il va nous falloir de la ténacité. J'ai juste évoqué le verset. De la ténacité, il va dire, le verset nous dit, demandez, frappez, cherchez, vous trouverez, on vous ouvrira, etc. Ces verbes-là, ce n'est pas Dieu qui le fait. Hein. C'est nous. Demander. Un jour, j'étais avec un frère, on va dans une église qui n'est pas ici, soyez sans crainte, on rentre dans cette église, c'était une réunion de prière. Il y a des beaux chants, de la louange, des frères et sœurs qui adorent le Seigneur, et toute la réunion se passe comme ça. Et en sortant, le frère, il me dit, « As-tu remarqué, Jean-Luc, personne n'a rien demandé. » Ben, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Le verset, il dit, demandez, on vous donnera. Mais si tu ne demandes jamais, on ne te donnera pas. Frappez, et on vous ouvrira. Cherchez, on vous donnera. Je voudrais vous donner un court témoignage. Moi, ça m'a frappé. Quand j'étais en région parisienne, un jour, il y a une maman qui vient avec son mari. Ils ont deux enfants, elle a subi des opérations, elle ne peut plus avoir d'enfants. Ils en voudraient un troisième. Elle me dit, nous, on voudrait un troisième, on voudrait que vous priez pour ça. Je prie pour eux, voilà. Puis, quelques temps après, je dis, alors, il me dit, ben, je ne l'ai pas dit ailleurs, ça, ce que je vais vous dire. Ne faites pas du mimétisme. Mais eux, ils agissaient parce qu'ils avaient ça dans le cœur. C'est comme ça qu'on doit faire. Ce n'est pas en copiant ce que je vais vous dire qu'il y aura un bénéfice pour vous. Non, c'est si vous avez quelque chose dans le cœur, faites-le. Alors ils viennent me voir, ils me disent, ben nous, tous les vendredis soirs, on dort dans la chambre des enfants, par terre, sur la moquette. Et pourquoi vous faites ça ? Parce qu'on veut un troisième enfant. Et donc, on veut s'humilier devant Dieu, on veut dire à Dieu, Seigneur, nous, on attend un troisième enfant. En moi-même, je me suis dit, quelle drôle d'idée ils ont eue. Jamais je leur aurais conseillé ça, moi. Hein. Mais ils avaient ça dans le cœur. Alors, en une fraction de seconde, je me suis dit, Seigneur, je ne vais pas leur couper les ailes de la foi. Je ne vais pas leur couper les ailes. Et vous savez quoi ? Eh bien, quelques temps après, ils ont eu un troisième enfant. Parce qu'ils ont demandé, frappé, cherché. En un mot, ils le voulaient. Et ils l'ont eu. Mes frères et sœurs, osez insister. Osez se battre jusqu'au bout. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Je vais terminer. Mes frères et sœurs, la repentance. Reconnaître que ce que nous vivons n'est peut-être pas brillant. Reconnaître qu'il y a des problèmes dans nos vies, reconnaître qu'on s'est planté, reconnaître qu'on pensait faire par soi-même, on pensait que ça irait, et puis ça n'est pas allé. Et puis, comme dit Job, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. Ce n'est pas brillant. Il faut se repentir, il faut revenir devant Dieu et lui dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai été fou, pardonne-moi. entrer dans le royaume des cieux. Entrer dans le royaume des cieux. Seigneur, viens régner dans ma vie. Je veux le règne de Dieu dans ma vie. Seigneur, je veux le règne de Dieu. Je veux marcher sans compromis. Je choisis le but et pas l'instant. Pourquoi je dis ça? Parce que celui qui, quand il est dit « coupe ta main », plutôt que d'entrer d'avoir les deux mains, mais d'être ensuite jeté dans la géhenne. Seigneur, je ne vais pas regarder l'instant présent, je vais regarder le but. Moi, je ne veux pas aller dans la géhenne. Moi, je veux aller dans la place que tu es parti me préparer. Et pour aller dans cette place que tu es parti me préparer, eh bien, je vais me faire violence maintenant parce que je choisis le but à l'instant. Sans compromis. Du courage. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Moi, je suis toujours surpris, je vous le dis, mes frères et sœurs, toujours surpris de voir qu'on demande quelquefois plein de choses au Seigneur. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, aide-moi pour trouver un logement. Seigneur, on a raison, c'est les besoins que nous avons. Hein. Mais j'entends rarement des gens dire, Seigneur, augmente ma foi. Pourtant, par la foi, vous auriez des grandes bénédictions. Mais on n'est pas prêt à se faire violence, on n'est pas prêt à dire « Seigneur, je prends ma part ». Seigneur, augmente ma foi, de la persévérance dans la prière jusqu'à une réponse. Mes frères et sœurs, mon frère, ma sœur, ami, use de violence envers toi-même. Empare-toi du royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur nous demande. Mes frères et sœurs, nous allons entrer dans un temps, nous y sommes déjà peut-être entrés, où le confort grignote notre foi, grignote notre courage, grignote notre détermination. Stéphane, il va certainement comprendre ce que je vais dire. Moi, je suis allé pour l'action missionnaire dans des pays, notamment au Nigeria. Au Nigeria, on tue les pasteurs en chair, devant leur famille, devant les fidèles. On démolit les églises, il ne reste pas une brique. Les murs, tout est démoli. Eh bien, les chrétiens là-bas, si on leur démolit 10 églises, ils en construisent 20. Rien ne les arrête. Moi, je disais à ma femme, ces frères-là, j'ai du mal à les inviter chez nous. Parce que s'ils viennent et qu'ils nous voient vivre, ils vont penser, mais ils sont tous endormis. Et moi aussi. Parce que le confort nous a grignotés. Parce que nous ne sommes plus habitués à dire, Seigneur, il y a des promesses dans la parole de Dieu, je veux les vivre. Tu m'as appelé, Seigneur, à entrer dans le royaume de Dieu et à m'emparer du royaume de Dieu. Et je veux, Seigneur, voir ces promesses dans ma vie. Alors on va prendre un moment, on va prier, on va terminer. Mais mon frère, ma sœur, je ne voudrais pas que ça reste juste un message comme ça, un de plus. Je voudrais que dans ton cœur ce matin, tu te mettes devant le Seigneur et que tu dises, Seigneur, c'est vrai qu'il y a des promesses que je n'ai pas vues dans ma vie. Je veux te demander, Seigneur, je veux m'en emparer. Fortifie mon courage, fortifie ma foi, fortifie mon zèle, parce que je veux m'emparer des promesses du royaume de Dieu. Amen. Alors, je vous propose qu'on incline nos têtes un instant.